Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le Bunker où on discute donc de films ou de séries qui ont trait à la guerre ou à l'armée ou aux faits militaires en général. Aujourd'hui, je suis Alexandre Jublin, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le colonel David Bapalardo de l'armée de l'air. Bonjour colonel.
Bonjour Alexandre.
Alors les auditeurs se souviendront peut-être que vous êtes déjà venu à plusieurs reprises. Alors là, d'abord c'était pour parler du F-35 avec Joseph Henrotin, des déboires du F-35. On pourrait faire des réactualisations, des mises à jour, puisqu'apparemment ils se sont essayés à la nage synchronisée en Méditerranée récemment. Mais c'était une très longue émission sur le F-35 et ses problèmes. C'était en plein premier confinement avec Joseph Henrotin. Puis on peut peut-être maintenant lever l'anonymat et dire que vous êtes venu nous faire un triptyque de Dans le viseur où vous racontiez un certain nombre de premières fois en tant que pilote de chasse dans l'armée de l'air, donc pilote de chasse de Mirage puis de Rafale. Et aujourd'hui, vous venez donc pour nous parler d'un chef-d'œuvre absolu, d'une merveille du 7e art, je plaisante à moitié, qui est donc Les Chevaliers du Ciel, film de Gérard Pires, sorti en 2005, Gérard Pires dont on peut signaler à tout hasard que c'est aussi le réalisateur de Taxi, premier du nom. Ce qui est bon, surprenant à première vue, et en même temps, quand on revoit le film, on se dit qu'il y a une certaine cohérence dans le ton et la finesse des dialogues, entre les deux films. Donc, film qui parle et qui est adapté évidemment des aventures de Tanguy et la Verdure, les BD de Charlier et Uderzo, et puis de la série de télé, les Chevaliers du Ciel, qui était dans les années 80.
67,
bon. Parfait, et qui est donc un film de 2005 avec Benoît Magimel, Clovis Cornillac, Géraldine Payas, Alice Taglioni et aussi Philippe Torreton dans un rôle tout à fait particulier, qui sont donc les aventures de deux pilotes de Mirage 2000 de l'armée de l'air. Alors je veux dire, c'est un film qui est intéressant, qui représente aussi un moment dans, disons, l'investissement croissant des armées dans les productions cinématographiques françaises, qui est, je vais être tout à fait honnête, j'en avais un souvenir un peu vague, alors je l'avais peut-être pas vu au cinéma, mais globalement pas longtemps après, d'un espèce de Top Gun franchouillard et un peu raté, qui arrivait pas au niveau de son modèle. Et en le revoyant, je veux dire, c'est pas ça. Alors après, on va en parler, je ne saurais pas exactement dire ce que c'est une autre affaire, mais c'est pas raté. En tout cas, tout n'est pas raté, notamment il y a des images aériennes qui sont somptueuses, beaucoup plus belles que celles de Top Gun, paradoxalement. Et en même temps, il y a aussi une sorte de ton et de messages et de dialogues qui sont absolument atterrants, qui sont parmi les pires dialogues de toute l'histoire du cinéma français, je pense. Alors, David Pappalardo, vous êtes donc ancien pilote de chasse, ancien pilote de Mirage, même si ça n'était pas des Mirage 2000. Alors dites-nous peut-être, commençons par là, vous étiez pilote de chasse en 2005, au moment où c'est sorti. Quand est-ce que vous l'avez vu et qu'est-ce que ça vous a inspiré sur le moment, ce film ?
Alors, effectivement, Alexandre, on va essayer de découvrir ensemble si ce film s'agit d'un choc émotionnel intense, pour reprendre les mots du capitaine Sébastien Valois, incarné dans le film par Clovis Cornillac.
On va essayer de ne pas reproduire trop de dialogues.
De ces dialogues, effectivement, on pourra y revenir.
Les déons aujourd'hui, les belles, elles sont jamais libres. Et les libres, rarement belles. Alors tu vois, il faut la jouer un petit peu à Grèce. Donc moi, ce que je fais, j'en cible une top, évidemment, hein, je choisis que du beau. Hein. Et là, je la libère par un choc émotionnel intense.
Alors, je l'ai vu, il me semble, à sa sortie, effectivement. Alors, en 2005, il est sorti en novembre 2005, si je ne dis pas de bêtises. J'intégrais tout juste mon premier escadron de chasse et de reconnaissance à Reims, sur Mirage F1CR. Donc, je l'ai regardé avec un œil de passionné d'aviation, effectivement.
C'était un gros truc dans l'armée de l'air, on en parlait, les pilotes en parlaient, enfin, ça faisait événement, quoi.
Alors oui, ça faisait événement puisqu'il y a eu un véritable investissement de l'armée de l'air avec un beau partenariat avec les producteurs du film et les réalisateurs, évidemment. On l'attendait.
On peut dire que là, évidemment, l'armée de l'air, il suffit de voir le film. Il n'y a pas beaucoup de producteurs qui disposeraient d'une escadrille comme ça de Mirage, donc évidemment que l'armée de l'air a tout financé, a permis l'accès aux bases, enfin pas financé directement, mais en tout cas a fourni les moyens qui permettaient de faire un film tel qu'il a été fait.
Alors effectivement, ce film-là ne se serait jamais fait sans le concours de l'armée de l'air, mais il faut bien noter deux choses. D'abord, il n'y a pas eu de financement dédié de l'armée de l'air, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire ce genre de choses, et par ailleurs, en revanche, on a mis à disposition un certain nombre, les avions effectivement pour les prises de vue. La base aérienne d'Orange a été extrêmement mobilisée et sollicitée pendant le film, et y compris nos installations à Djibouti, comme on le voit à un moment dans le film. Et par ailleurs, ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il n'y a pas eu de vol dédié pour le film. On n'a pas dédié une mission pour réaliser ce film. On a à chaque fois adossé à une mission opérationnelle. Alors un exemple sur le film, c'est la scène finale lorsqu'on voit le défilé au-dessus des Champs-Élysées. Ces prises de vue, elles ont été faites à l'occasion du défilé en 2004, en profitant du tout le dispositif. Alors ce n'est pas à l'occasion du défilé en lui-même, mais bien des répétitions depuis Châteaudun au-dessus des Champs-Élysées. Donc à chaque fois, c'était vraiment un partenariat gagnant-gagnant entre l'armée de l'air et les producteurs du film pour donner le résultat qu'on connaît. Alors, vous m'avez posé la question, comment est-ce qu'on l'a accueilli ? Ce type de film, c'est d'abord un film grand spectacle. Faut bien dire ce qui est. Un film de divertissement. Donc, quand on le regarde avec, pour les producteurs, pour les réalisateurs, c'est forcément un compromis. Un compromis entre ce que peuvent rechercher les experts, comme nous, pilotes de combat, et puis les attentes du grand public. Donc on est amusé à certains, on aura certainement l'occasion d'y revenir, on est amusé à certains égards d'y voir quelques petites anecdotes qui effectivement peuvent être notre quotidien dans le monde des pilotes de combat. Et de l'autre, on peut être, comme vous l'avez dit en introduction, parfois atterré sur les raccourcis qui sont faits. Mais globalement, on voit quand même que le film restitue bien tout ce qui est chaîne de défense aérienne et mission de police du ciel, dont on avait eu déjà l'occasion de parler lors du triptyque que vous avez mentionné, sur tout ce qui est investissement, par exemple pour la protection du 14 juillet, ce genre de choses. Donc il y a des choses qu'on retrouve et qui sont relativement cohérentes avec ce qu'on connaît au quotidien.
Alors, on va dire un des très grands intérêts, peut-être le grand, très grand intérêt, c'est les images aériennes qui sont mais sublimes et au-delà de ça. Et par ailleurs, ça aide beaucoup à comprendre ce dont on parle parfois. On sait que les aviateurs de l'armée de l'air aiment beaucoup, beaucoup le Mirage, trouvent que c'est un avion somptueux, etc. Et bon, moi, je suis pas, j'aime bien les avions de chasse, mais je suis pas particulièrement fou d'aviation, c'est pas là. Le voit dans la vie que j'ai choisi, disons. Je comprends très bien. En voyant le film, on comprend très bien ce que les aviateurs décrivent de la beauté, de l'élégance de cet avion et de sa maniabilité. Donc, les cascades, les combats simulés, etc. C'est très beau, c'est très... On a l'impression, en tout cas, vu de l'extérieur, bien fait. Mais alors, justement, est-ce que c'est bien fait ? Tout c'est, notamment, on peut pas dire toute la première partie du film... Alors il y a la première séquence, qui est une séquence de vrai combat, puis ensuite il y a toute une séquence d'entraînement, à partir de la base d'Orange, et notamment dans les Alpes, et ça c'est aussi très très beau. Est-ce que tout ça c'est, bien fait, ou est-ce que il y a des trucs où... Enfin, est-ce que, disons, l'œil du pilote n'arrête pas de tiquer dans ces peut-être 40-45 premières minutes ?
Non, alors, j'ai revu le film, effectivement, pour préparer la mission ce week-end, et il y a vraiment trois choses qui m'ont frappé, dont une qui est complètement en lien avec ce que vous dites. Peut-être rapidement avant, redécrire le scénario sans faire de spoiler, même si je pense qu'après 2005, tout le monde, la plupart ont pu voir ce film,
si
peut-être.
Si vous ne l'avez pas vu depuis 15 ans, c'est que c'est voilà. Trop tôt. Vous ne pouvez pas vraiment vous plaindre de vous faire spoiler.
Effectivement. Donc, j'ai trois points qui me paraissent importants. Alors, rapidement, comme je l'ai dit, le film il commence au salon de Farnborough. qui en fait, c'est pas Farnborough qu'on voit, mais c'est des cabines, des salons, des chalets du salon du Bourget. On a un Mirage 2000 qui est censé faire une démonstration en vol, comme c'est le cas lors de ces salons, mais ça ne se passe pas comme prévu, puisque le pilote est intercepté, alors qu'il n'est pas encore dans l'avion, il est assassiné, et puis un autre prend sa place. Au lieu de faire cette démonstration, eh bien, il vole l'avion et s'enfuit en se cachant dans le sillage d'un autre A340, toujours de la Qatar Airways. Donc on a la police du ciel, on parlait tout à l'heure, et puis ça revient à votre question de qu'est-ce qui est réaliste et qu'est-ce qui n'est pas. La police du ciel, qui a deux avions, qui patrouillent en mer du Nord. Pourquoi en mer du Nord ? C'est un élément scénaristique. Et qui va être retasqué en vol pour intercepter l'avion, l'identifier, et puis l'interroger sur ses intentions. Là encore, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, puisque l'avion n'obtempère pas, et puis va s'enchaîner une sorte de combat aérien où l'un des équipiers, donc le capitaine Valois, incarné par Clovis Cornillac, va être en position défensive, et bien le capitaine Marcelli va devoir abattre l'avion pour sauver la peau de son partenaire.
Globalement, ils sont à un dogfight à deux contre un, et le Mirage de Ville qui se fait chourer a un des deux Mirage en ligne de mire, et l'autre doit donc abattre le Mirage qui était en train de se faire voler.
Voilà, et alors tout ça, et puis j'arrête, c'est effectivement le point de départ d'une machination film.
On n'est pas obligé d'entrer dans dans la grande trame scénaristique du film, parce que franchement, c'est pas en plus ce qui est le plus de qualité.
Mais... Alors il y a les trois choses qui sautent aux yeux. La première, c'est comme vous l'avez dit, le film est vraiment esthétiquement réussi. C'est très beau, le Mirage 2000 effectivement est magnifique, et cette réussite, on la doit largement à Éric Magnan, qui est directeur de la photographie, qui a continué maintenant ses clips il a plus de 200 heures de vol de chasseur, il continue à faire des films pour mettre en avant l'aviation de combat, et effectivement là il est au sommet de son art sur ce film. Toutes les scènes sont extrêmement bien réussies. Néanmoins, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que les distances auxquelles on opère dans le combat, par exemple, elles sont pas du tout scénaristiques, elles sont pas photogéniques pour un film de cet acabit là. Donc dans le film, ce qui n'est pas tout à fait réaliste, c'est que tout est rapproché. Quand on voit cette scène de dogfight, par exemple, au début à deux contre un, où l'avion est quasiment à quelques mètres derrière pour essayer de le tirer au canon, ça, ce n'est pas du tout réaliste. Et je ne parle même pas du combat à très très grande distance, à plusieurs dizaines de kilomètres, où on ne se voit même pas. Donc,
vous voulez dire dans un vrai truc, là on a l'impression que qui joue aux autotamponneuses un peu, alors que dans la vérité, il sera à plusieurs centaines de mètres au moins, oui, les uns des autres, et ça suffirait largement pour, disons, les rapports de force et les logiques de dogfight telles qu'elles se passent réellement, quoi.
Exactement. De même, on fait pas une passe canon à quelques mètres derrière sans facteur de charge, on aurait beaucoup de mal à stabiliser la visée.
Sans facteur de charge, ça veut dire sans être en train de tourner, train de redresser un peu, parce que sinon on prendrait les turbulences, enfin bon, en tout cas les variations de la pression. Enfin bon, l'avion bougerait, donc il faut être en virage pour avoir un canon bien stable.
Et par ailleurs, une fois l'autre avion abattu, à ces distances-là, on rentrerait directement dans la boule de feu et on finirait également par détruire notre propre avion. Donc ça, c'est pas réaliste. Pour rendre la scène photogénique, on a raccourci les distances, et à certains égards, on a pu accélérer certaines séquences également, comme des phases de décollage qui donnent l'impression qu'on passe de 0 à 500 km/h en à peine quelques secondes. C'est déjà dans la vraie vie suffisamment intense, mais là c'est encore accéléré. Donc ça, c'est le premier point qui m'a frappé.
Et ça, on pourrait presque y voir une sorte d'héritage de continuité de films comme La Bataille d'Angleterre, en tout cas de films d'aviation de la Seconde Guerre mondiale, où effectivement c'est les combats entre les Spitfire et les Messerschmitt, ou entre les Stuka ou les Aero, enfin bon, peu importe, des trucs qui ont fait vraiment toute l'esthétique par ailleurs du combat aérien, en tout cas au cinéma, où ça se passait vraiment à cette distance là il y a une sorte de transposition qui dans la réalité marcherait pas vraiment, c'est ça?
On peut même dire que quelque part c'est vrai de tous les films militaires, y compris dans les autres milieux terrestres et navals. Pour rendre quelque chose de visuel à l'écran, il faut raccourcir raccourcir les distances. Donc oui, on retrouve cette analogie.
Je veux dire, par exemple, dans le Chant du Loup, quand il y a deux sous-marins qui se croisent à 50 mètres d'écart, voilà, c'est le même genre de logique, quoi.
Probablement. Alors, je ne suis pas expert du milieu marin, mais c'est effectivement la même genre de logique, ouais.
Ok, donc ça c'est le premier point intéressant, c'est la question des distances et disons de ce qu'il a fallu concentrer dans l'action pour en faire un bon film. Qu'est-ce qui vous intéresse?
Toujours pour filer ce point, les points réalistes, vous me posez la question des points réalistes et puis des autres points farfelus, il y a des choses qui sont extrêmement réalistes, notamment tout ce qui est indicatif. Le centre de contrôle qui s'appelle Riesling, l'indicatif des aéronefs Charcot qui était celui du 1-5 Vendée à l'époque, ou l'AWACS à la fin avec Cyrano. Donc tout ça, c'est réaliste. Dans les combats aériens, notamment la fameuse scène au sud des Alpes, la restitution de la respiration, notamment sous facteur de charge, très haletante, très intense, c'est quelque chose que l'on vit également au quotidien. Il y a d'autres scènes de combat qui sont réalistes, par exemple, quand Fahrenheit perd le visuel. L'autre lui dit dans ce milieu, si tu perds le visuel, tu es mort. Et ça, c'est ce qu'on répète au quotidien en combat à vue, fût-il à des distances plus éloignées que celles qui sont restituées à l'écran. Si vous perdez votre adversaire de visuel et que lui vous a conservé, eh bien forcément, vous allez devoir rendre de l'angle, perdre de la manœuvrabilité, et l'autre avion va venir vous assassiner. Donc la première règle dans le combat aérien qui est bien située ici, c'est surtout ne pas perdre de visuel son adversaire.
Et les distances à laquelle ça se fait, même à l'entraînement, est-ce que ça c'est réaliste, ou est-ce qu'il y a des moments où, notamment j'ai un souvenir du premier entraînement dans les Alpes, etc., où il y a un avion qui croise juste à côté d'un autre, on se dit, bon, s'ils font ce genre de truc à l'entraînement, on s'étonne un peu qu'on ne perde pas plus d'avions au quotidien, quoi.
Alors on a des règles, tout entraînement est codifié par des conventions et des règles de sécurité, donc toutes les images du film, elles ont respecté ces règles de sécurité. Quand on s'entraîne au combat à vue, on a ce qu'on appelle une bubble autour de l'avion qu'on ne doit absolument pas pénétrer, mais qui est relativement courte quand même. C'est de l'ordre de 1000 pieds, donc environ 300 mètres et quelques. On évite ces croisements à moins de 300 mètres. En revanche, je peux vous dire que les distances en combat aérien à vue, en Mirage 2000 c'est le cas, mais c'est encore plus en rafale, sont extrêmement resserrées. Donc on évolue toujours en visuel de l'autre, sur ces combats à vue, je parle. Hein. Et ça rend quelque chose qui peut être impressionnant pour celui qui ne le connaît pas, effectivement, qui ne connaît pas cette expérience. Alors en revanche, il y a aussi des points farfelus dans le film. On a mentionné là aussi c'est lié au fait qu'on a besoin d'être photogénique, mais on garde toujours son masque. Alors ils sont tous...
Mais là, vous comprenez, on ne verrait pas la belle moustache de Benoît Magimel, ce serait extrêmement problématique. Ni le rictus un peu d'ahuri de Clovis Cornillac qui permet, ne serait-ce que dans le bas du visage, on a déjà tout compris de ce que le réalisateur veut dire de ces deux personnages.
Alors, il y a d'autres aspects. Par exemple, à Djibouti, lorsqu'ils font dans ce qu'on appelle le show of force, c'est-à-dire un passage très grande vitesse, très basse altitude, pour montrer notre détermination et puis globalement faire peur à l'adversaire ou l'ennemi, ils le font en supersonique avec des bidons qui ne le permettent pas. Donc, il y a quelques petits raccourcis.
C'est-à-dire quoi, des bidons qui...
Alors, selon la taille du bidon, on peut avoir accès à des vitesses supersoniques.
Mais c'est quoi le bidon?
Le bidon qui emporte du carburant, pardon.
Ah d'accord, réservoir.
Le réservoir.
Ok.
Donc le réservoir de carburant est trop gros pour permettre un vol supersonique. Voilà, c'est ce genre de raccourci que seul l'expert va voir, mais qui, une fois encore, pour le grand public, paraît anecdotique.
On peut souligner que, par ailleurs, à ce moment-là, Clovis Cornillac est à l'arrière, sans siège, sans casque, sans rien du tout. Donc c'est pas la seule invraisemblance de ce truc-là.
Alors c'est effectivement un élément, on va dire, intéressant du film, mais c'est pas si invraisemblable que ça, puisque c'est déjà arrivé de perdre la verrière en vol. On a déjà eu des cas dans l'armée de l'air, alors pas pour les raisons qui sont indiquées dans le film, mais je me souviens d'un Mirage F1 qui en vol, en mission d'entraînement calme à haute altitude, pour des problématiques de pressurisation cabine, a perdu sa verrière et le pilote s'est retrouvé en décapotable devoir se poser en urgence. Donc, c'est pas si invraisemblable que ça, même s'il est évident qu'on doit réduire sa vitesse et puis annuler tout de suite la mission pour venir se poser.
Il a dû en sortir avec un joli brushing.
Exactement.
A priori.
Il y a un deuxième point, là, parce qu'on a parlé de l'esthétique du film. Il y a un autre point qui, effectivement, vous avez souligné aussi, c'est la trame scénaristique, qui est parfois risible.
Non seulement c'est risible, mais en plus, sur le dernier quart d'heure, Il y a plus de trous que dans un gruyère dans ce truc-là. C'est invraisemblable. Enfin, déjà, c'était n'importe quoi au début, mais alors à la fin, on sent qu'ils ont dû sabrer des pages au hasard dans le scénario et se dire, bon, ben, l'essentiel, c'est qu'ils soient tous en vie à la fin.
Ouais, mais vous l'avez mentionné, hein, il faut se rappeler quand même que le réalisateur, c'est Pires. Donc, il a fait Taxi, mais il a fait aussi Double Zéro avec Eric et Ramzy, ça donne un outil. Et puis, le scénariste a fait Michel Vaillant. Donc, vous voyez, c'est un film grand public, c'est un film spectacle. Ça n'empêche pas d'avoir un bon scénario.
Ouais, mais aux États-Unis, Top Gun, c'est Tony Scott. Ils savent faire aussi des films grand spectacle, mais pas avec. Enfin, bon, cela dit, vous me direz, si on regarde de trop près le scénario de Top Gun, il y a aussi quelques problèmes. On en avait parlé. On avait fait une émission sur Top Gun ici, d'ailleurs, avec Tony Morin. Très bien. Alors, il y a un autre truc qui m'intéresse aussi. On reparlera peut-être d'autres choses, mais il y a un truc sur la technologie qui est intéressant, parce que. Donc c'est un film qui a plus de 15 ans maintenant, et il y a un certain nombre de passages en simulateur, il y a un certain nombre de passages où on voit qu'ils refont les missions, etc. Et je me suis dit, même aujourd'hui, c'est hyper technologique, mais alors, par rapport à il y a 15 ans, enfin, si je me replace dans il y a 15 ans, et de ce qu'on faisait numériquement et en simulation 3D il y a 15 ans, c'est exceptionnel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous travaillez déjà comme ça? Est-ce qu'ils ont utilisé les vrais outils de l'armée de l'air déjà de l'époque, ou est-ce que tout ça c'était encore disons, du cinéma quoi.
Alors ce qu'on voit dans le film, ce n'est pas tout à fait les outils qu'on utilise dans l'armée de l'air. C'est rendu un peu plus, là encore, visuel à l'écran. Néanmoins, ça existait déjà à l'époque. Et effectivement, une mission, ça ne se résume jamais au vol. On en avait déjà parlé, c'est le briefing, l'exécution et le débriefing. Et pour les missions de combat aérien, on a un outil qui s'appelle le SERPAM, qui permet de restituer la trajectoire, comme on le voit dans le film, et c'était déjà le cas à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui, sur grand écran, de restituer les tirs, voir s'ils ont été valides ou pas, a posteriori, puisqu'on peut également l'estimer pendant le vol. Donc ça existe aujourd'hui, et c'est là où on va tirer tous les enseignements du vol. On se retrouve, les membres de la patrouille, ce qu'on appelle le raider, c'est-à-dire le sparring partner, en quelque sorte, et puis c'est extrêmement formalisé. On va débriefer la mission en disant « Ok, est-ce que les points de sécurité ont été atteints? Quels étaient les objectifs de la mission? Ont-ils été atteints ?»
Et donc et ça, ensuite... cette espèce de « on re-regarde la vidéo », alors c'est pas forcément aussi joli à l'écran que ce qui nous...
Ça n'en est pas loin. Ah ouais. Sincèrement, ça n'est pas loin. On a des codes couleurs, on voit toutes ces trajectoires qui sont étendues sur 5-6 secondes auparavant. On peut le régler. Mais c'est vraiment extrêmement proche. Aujourd'hui, ces technologies, elles sont même améliorées par les liaisons de données tactiques. On peut faire ça pendant le vol. C'est notamment une des capacités à Mont-de-Marsan, avec un centre d'expertise du combat collaboratif, où on va pouvoir suivre ce au sol.
Il le montre.
Il le montre aussi.
Tout le monde est en train de regarder en direct sur l'espèce de tableau numérique ce qui est en train de se passer.
Et on peut avoir, on a ce qu'on appelle un airboss, c'est-à-dire un grand arbitre, qui va pouvoir dire, ok, ce tir est valide, tu es mort, tu rentres te poser parce que tu ne peux plus jouer dans l'équation, etc. etc. Donc il y a un mélange de conventions et d'arbitrage temps réel qui à l'époque n'était qu'à ses balbutiements et qui aujourd'hui est effectivement bien efficace, et on fait tous nos grands exercices avec ce type de... Donc ça, c'est pas du tout irréaliste, au contraire, et là encore, c'est bien ici que réside la richesse de l'entraînement.
Alors, puisqu'on est passé un peu aux bases, etc., il faut parler de ce qui est tragique, dramatique dans ce film, c'est l'esprit, c'est les dialogues, c'est abyssal de misogynie, de beaufrie, de c'est pas drôle, 97% du temps, c'est vraiment, mais abominable à regarder, ça ferait passer Top Gun pour un film... woke et inclusif, alors que Top Gun, enfin bon, si on le regarde déjà, ça en tient une sacrée couche et les années 90 n'excusent pas tout. Mais alors, ça en 2005, faire un film aussi, je suis navré, mais blaireau, enfin, c'est vraiment, c'est terrible, c'est abominable, entre les striptease devant la base, enfin bon, c'est une vision des femmes et des femmes pilotes de chasse qui est vraiment. Je trouve lamentable. Mais qu'est-ce que vous, comment est-ce que vous le voyez? C'est-à-dire, est-ce que, parce que, au-delà de ça, il y a aussi le fait que les milieux militaires sont des milieux majoritairement masculins, qui vivent en entre-soi, et que, disons, un humour un peu bas du front, appelons ça potache dans le, pour être généreux, n'est pas rare, n'est pas exceptionnel. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dit, bon, bah, il a poussé à 8000 le curseur d'une sorte d'ambiance qu'on peut un peu retrouver parce que, voilà, on a des militaires et c'est aussi des traditions? Ou est-ce que vous avez dit, mais dans quel monde il vit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait?
Alors effectivement, on retrouve, c'est extrêmement sexiste, on retrouve tous les clichés possibles et imaginaux.
La pilote de l'air américaine qui est stripteaseuse à temps
partiel. Je vais revenir là-dessus parce que j'ai une petite anecdote, mais quand j'ai regardé ça avec en famille, donc ce week-end, mon fils...
J'espère que vos enfants ne sont pas trop ambassadeurs.
Non. Mais mon fils de 14 ans a dit, c'est bien, il est pas mal ce film si on enlève les dialogues et tous les clichés. Ça résume un peu ce que vous venez de dire. Mais alors, c'est effectivement extrêmement sexiste. La scène du striptease, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de passer une année aux États-Unis pour y étudier, avec d'autres militaires américains. J'ai lié amitié avec lui.
Le plot, c'est donc deux pilotes de chasse viennent de l'US Air Force et en programme d'échange, et il y en a une des deux qui est apparemment stripteaseuse à temps partiel et qui fait un striptease pour je sais pas à quelle occasion sur la base. Enfin, c'est...
Okay. Alors, et Jet, je voulais te demander, où est-ce que t'as appris à faire le grand écart, tout ça?
J'ai dansé dans les bars. Tu sais, les filles font souvent ça aux États-Unis pour payer leurs études, c'est juste danser.
Ah d'accord. Et je pensais à un truc parce que ce soir, à l'aéroclub, on fait une petite fête pour Bunker et One Eye. Ça ne dirait pas de faire un petit numéro pour nous?
Why not?
Ma camarade américaine me dit, mais David, comment est-ce que les Français voient les pilotes américaines? D'abord, je n'ai pas les moyens de me payer des Louboutins, puisque il est utile de préciser qu'elle fait son striptease avec des Louboutins. Et deux, non, on ne fait pas de striptease pour faire plaisir à nos collègues masculins. Donc là, on est dans le comble du cliché, et c'est effectivement assez pathétique quand on regarde ça. Alors, sans parler du côté extrêmement sexiste et puis de la vision qu'ils ont des femmes pilotes de chasse, il y a également tous les clichés sur le monde des chasseurs. Donc non, tous les chasseurs ne volent pas avec des Ray-Ban, d'ailleurs on ne vole pas avec des lunettes de soleil, non, on ne roule pas tous en Porsche.
Sur l'humour, on va passer toutes les plaisanteries extrêmement fines sur le manche de l'avion, parce que c'est vraiment déjà l'affaire une fois, ce serait terrible, mais alors il y a 20 fois la même blague toute pourrie.
Mais à l'inverse, il y a quelques, alors elles sont rares, hein, mais il y a quelques phrases qui reflètent finalement bien, ou même quelques séquences qui reflètent en partie ce qui peut se passer dans un escadron de chasse, notamment le fait qu'on ne se pardonne jamais rien les uns les autres, qu'on est toujours en train de se titiller. Quand Fahrenheit se fait abattre en entraînement, dans le jargon des pilotes, on se fait tirer par un autre missile ou par un canon. Là, il faut bien dire que lorsqu'on rentre à l'unité, tout le monde chambre et on ne se pardonne jamais rien.
C'est moche, hein.
C'est ballot, hein.
Pas grand chose à dire.
Non.
Désolé, ma vieille.
Oui, tais-toi, ça vaut mieux. Bon, y a personne d'autre là?
Cet esprit, il est relativement bien restitué au travers de quelques petites phrases, quelques petites anecdotes. Ça, imaginer un pilote expérimenté, notamment se faire tirer par un jeune pilote, dans le film, en plus, entre guillemets, évidemment, c'est une femme, vous imaginez pas à quel point il a pu se faire.
Et en plus, c'est une Américaine. Qui découvre le Mirage 2000, bon.
Donc ça, c'est de quoi abattre une carrière pour un pilote de chasse. Donc je plaisante, évidemment, parce qu'on est, une fois encore, dans la caricature, et c'est un film...
Est-ce que ça arrive tout le temps? C'est-à-dire, est-ce que, quand vous vous entraînez comme ça au dogfight, il y a toujours un vainqueur, un perdant? Ou est-ce que, la plupart du temps, c'est match nul, parce que tout le monde est bon à ce qu'il
fait? Non, globalement, sur le dogfight, ça se termine toujours par un vainqueur et un perdant. Alors, à quelques exceptions près, je jette un voile pudique sur les détails. Mais ce n'est pas toujours le cas, notamment sur le combat à distance. La seule question qui vaille, c'est pas est-ce que j'ai tué l'autre, c'est est-ce que j'ai fait la mission. Et la mission ne consiste pas uniquement à abattre l'autre avion. Ça peut être protéger un raid, le repousser le plus loin possible, repousser la menace le plus loin possible, etc. etc. Donc, en revanche, sur le combat à vue, et on en fait encore aujourd'hui, mais sur le combat à vue, où il y a toujours un vainqueur et un perdant, quand ça rentre, les discussions au bar de l'escadron, entre guillemets, effectivement, ça chambre. Et ça, cet esprit chambreur des pilotes de chasse, qu'on voit un petit peu, même s'il est caricaturé dans le film, c'est quelque chose qui a une certaine réalité. Il y a quelques petites phrases aussi qui sont prononcées au milieu de tout ça par Fahrenheit, qu'un pilote de chasse aurait probablement pu, sur le ton de l'humour, j'insiste, prononcer, notamment lorsque... Il chambre les pilotes de transport, il voit un avion de transport, il dit « qu'est-ce que c'est que ce car à touriste ou cette caravane, cette bétaillère ?» Bon, ça, c'est ce vocabulaire que l'on peut retrouver, mais c'est toujours amical, on va dire. C'est pas,
Et je me demandais, ça fait des blagues aussi à la radio, parce que, par exemple, à un moment, on les voit ravitailler, ils font des vannes sur, je sais pas quoi, sur le pompiste, enfin bon...
Big Fat Alpha de Loubar 15. Y'a quelqu'un pour servir les hommes? On a soif.
Loubar 15 de Big Fat Alpha. Bienvenue en zone hors taxe. Parfum, souvenir, qu'est-ce que je vous sers?
Pour moi, ce sera 8 tonnes de Bonquero S34. Avec une paille, on est deux.
C'est parti. Vas-y, clique dans la tétine.
Tu t'es sué la bouche, au moins?
Non, il fallait.
Ou est-ce que... Parce qu'il y a aussi plein de milieux où, en fait, quand on parle à la radio, on parle avec des codes parce que ça donne des informations assez précises. Est-ce qu'il y a ce genre de truc où on a un peu une liberté artistique à la radio ou est-ce que dans la vraie vie, on est quand même plus sérieux ?
Non, non. L'esprit que je viens de présenter, ce n'est pas celui qui est représentatif de ce qu'on fait dans l'exécution de la mission. On est extrêmement sérieux dans la préparation et l'exécution de la mission où tout est codifié, il y a des procédures que l'on doit respecter scrupuleusement et on se permet pas ce genre de poésie.
On se met pas à parler de la soirée de la veille au micro.
Non, non, c'est vraiment d'abord parce que ce qu'on fait est difficile. Ce qu'on fait nécessite de l'entraînement et de la concentration. Donc lorsqu'on est dans sa mission, on est pleinement dans sa mission, on est concentré, on respecte les procédures. Cela n'empêche pas de profiter de la beauté des paysages et de la poésie des instants lorsqu'elle arrive, parce que on a beau être professionnel et extrêmement rigoureux dans ce qu'on fait, il serait dommage de ne pas profiter bien d'une scène au-dessus des Alpes comme on voit dans le film, d'un coucher de soleil alors qu'on rentre de la mission. Donc on peut effectivement, lorsqu'on voit ça à la radio, se dire regarde comme c'est beau, voilà, ce genre de choses, mais globalement les pilotes sont extrêmement rigoureux dans l'application de leur procédure.
Il y a un autre truc, c'est que ça, enfin, toujours pour parler des pilotes, il y a un truc que j'ai trouvé assez bien fait et assez émouvant, c'est ce côté, alors il y a un moment où ils sont radiés, en tout cas au moins temporairement, de l'armée de l'air, et on les voit en train de faire autre chose, mais alors un qui tire une banderole, l'autre qui fait des trucs pour des parachutistes, etc., enfin pour de la chute libre, quoi. Et ça, je trouvais que c'était assez émouvant sur ce côté des pilotes qui ne veulent pas, enfin les quelques pilotes que j'ai rencontrés, ça me paraissait assez... réaliste ce côté de pilote, une fois qu'on n'est plus pilote de chasse, on a quand même envie de rester pilote, on a quand même envie de continuer à voler parce qu'il semblerait, alors moi j'en sais rien, mais il semblerait que ce soit une drogue assez dure quand même.
Alors effectivement, on n'aime pas se faire arracher les ailes. Dans le film, Benoît Magimel et Clovis Cornillac se font arracher les ailes et puis finissent par, avec une rapidité incroyable d'ailleurs, par faire complètement autre chose. L'autre sur Pilatus pour larguer des parachutistes, mission extrêmement excitante d'ailleurs, puisque bon, alors un peu répétitive certes, mais quand on descend, comme on le voit dans le film, très très rapidement et parfois bien plus vite que les chuteurs d'ailleurs, ça procure aussi quelques sensations. Puis on voit Clovis Cornillac, je vous parlais des petites phrases d'ailleurs aussi, qui lui se retrouve, je sais plus que c'est un biplan, mais je sais plus qu'est-ce qu'il fait exactement, où il tire des banderoles, et quand il touche le badin et qu'il fait 110 nœuds, on s'ennuie quand même. Ça, c'est vraiment une réflexion typique de chasseur. Voilà. Mais pour répondre à la question, on peut nous répondre qu'individuellement, il est vrai que la plupart souhaitent continuer dans le milieu de l'aviation, que ce soit par exemple à la sécurité civile sur Canadair, où on retrouve beaucoup de similitudes avec la rigueur et le côté unique des missions de pilote de chasse, que ce soit dans l'armée de l'air ou dans l'aéronaval, ou moins excitant, mais pilote de ligne, ce genre de choses. Voilà. Effectivement, il y a des pilotes qui vont vouloir continuer dans ce type d'aventure, et d'autres, lorsque leur temps est terminé, qui peuvent dire au contraire, maintenant, ces derrière moi, Je conserve tous ces fragments d'éternité comme des réservoirs d'énergie pour ma vie future, mais je tourne la page.
J'ai pris suffisamment de jet dans la tête au cours de ma vie, on peut s'arrêter un peu maintenant.
Effectivement.
Enfin, peut-être dernier truc, je me suis posé, c'est parce que c'est un film qui a un moment intéressant dans le réinvestissement des armées dans le cinéma français. On peut dire que ça ouvre la voie, alors un peu lointainement, mais à un film qui est un peu mieux, mais pas tellement, qui est Force spéciale de Stéphane Ribaujad, et Au Chant du Loup encore plus tard, qui pour le coup, moi, je trouve nettement meilleur. Mais... Et en même temps, on a l'impression qu'ils essuient un peu les plâtres. C'est étonnant parce que, de toute évidence, il y a une débauche énorme de moyens au service des producteurs du film. En même temps, c'est un peu bizarre parce qu'il y a une vision de l'État français, des militaires et aussi d'Assaut Aviation, soit dit en passant, qui n'est pas toujours flatteuse. Et mon premier réflexe en voyant ça, je me suis dit, mais quelle image ça donne du conglomérat militaro-industriel de l'avion de chasse française ? Pas terrible, parce qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment prêts à tout pour vendre des avions de chasse n'importe où. Je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé à la fois de cette vision qui est faite, et puis en même temps de peut-être que ça a un peu refroidi les armées françaises, en tout cas pour un certain temps, en se disant voilà, là on a laissé carte blanche complète aux scénaristes et aux producteurs, le résultat est, disons, inégal. Peut-être qu'il est urgent d'attendre et de faire ça mieux la prochaine fois, quoi. Enfin, c'est une supposition.
Alors, le premier élément, débauche de moyens, pas tant que ça, une fois encore. Hein. On n'a pas mis de...
Non, mais j'ai lu quelque part une interview de quelqu'un, d'un militaire, qui disait qu'il aurait fallu, si sans le soutien massif de l'armée de l'air, il aurait fallu 100 ou 150 millions d'euros de budget en plus, quoi. Donc c'est quand même la condition de possibilité absolue.
Alors effectivement, l'image est parfois peu flatteuse de tout l'écosystème que vous décrivez. Néanmoins, il faut vraiment voir ce film comme un film de grand spectacle, avec ses réussites, comme on l'a mentionné, notamment sur l'aspect visuel, et puis ses failles sur l'aspect scénaristique et les clichés qu'il peut, à certains égards, véhiculer. Mais il aurait été, à mon avis... Je dis bien, à mon avis, beaucoup plus contre-productif de vouloir s'insérer plus activement dans le scénario en tenant la bride courte au réalisateur, qui ne l'aurait probablement pas accepté. Donc là, c'est cette logique de compromis, gagnant-gagnant. Au final, je ne pense pas que l'armée de l'air ait pâti de l'image et des quelques clichés qui sont véhiculés dans le film, et qu'au contraire, ce que les gens ont retenu, ça va être ces magnifiques images de Mirage 2000, et puis qui sont présentes dans le film.
Vous savez quoi, moi je me suis posé la question de si l'armée de l'air en avait pas pâti. C'est très beau, mais notamment dans un objectif, alors qui n'était peut-être pas celui de l'époque, mais d'ouverture, de recrutement, et notamment à la mixité, c'est-à-dire... Je me suis dit, une jeune fille qui veut devenir pilote, en tout cas travailler dans la chasse, en voyant ce milieu et l'image qui est représentée des rares femmes qui sont soit séductrices, soit traîtresses, soit stripteaseuses, c'est pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à ça, mais pour quelqu'un qui a envie de devenir militaire et de devenir Top Gun ou pilote de chasse, c'est pas... Je me suis demandé si ça avait tant que ça bénéficiait, quoi.
Alors c'est sûr que la sortie de ce type de film en 2020, ça passerait jamais, et c'est heureux. Hein. Je pense qu'on peut tous s'en réjouir. Je pense que les hommes et les femmes qui veulent rejoindre l'armée de l'air, elles ont regardé ce film avec détachement. Je ne sais pas au final quel a été l'impact sur le recrutement, mais je ne pense pas que...
Parce qu'on peut dire que c'est des impacts qui sont quantifiables. Je peux renvoyer à l'épisode avec Tony Morin, mais Top Gun, ça fait exploser les recrutements de pilotes de l'aéronavale. C'est un vrai truc historique.
Et de l'armée de l'air aussi, d'ailleurs.
Et de l'armée de l'air aussi, les gens n'ayant pas forcément tout à fait compris que Top Gun, c'était la marine américaine.
Mais voilà, une fois encore, les gens qui veulent rentrer, les hommes et les femmes qui veulent rentrer en tant que pilotes de chasse, de transport, d'hélicoptère dans l'armée de l'air, ils ne vont pas s'arrêter à ça. En 2005, hein, puisque c'est la date, il y avait déjà un certain nombre de femmes pilotes de combat. On se souvient notamment de Virginie Guyot, avec qui j'étais en escadron quand je suis arrivé à Reims en 2005, qui a été la première femme pilote de la patrouille, commandant la patrouille de France. Il y avait une dizaine de femmes réparties entre toutes les unités, et effectivement...
Vous savez comment elles l'ont vu, ce film ?
Ben, elles l'ont vu. Enfin, je ne sais pas répondre complètement à cette question, mais j'imagine qu'elles l'ont vu comme on pourrait s'y attendre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces clichés et cette image de la femme qui est rendue. Bon. Et évidemment, elles ont raison de penser ça, et on devrait tous penser ça. Et une fois encore, ce film, aujourd'hui, avec ce côté caricatural, ne pourrait pas sortir. Mais à certains égards, il reflète... Les deux personnages de la BD, on n'a pas parlé de la BD et de la série, mais Tanguy et la Verdure, dès la BD et a fortiori dans la série qui a commencé, qui a été diffusée entre 67 et 70, on retrouve un peu l'esprit de Clovis Cornillac et de Benoît Magimel. C'est-à-dire on a Tanguy qui est le pilote de chasse, certes séducteur mais assez réservé, très très bon, méticuleux, respectant tout le temps les procédures. Et puis la Verdure qui est un peu le chien fou, bof, qui saute sur tout ce qui bouge, extrêmement dragueur, un dragueur invétéré. Donc on retrouve cette image, cette identité des personnages dans le film, sauf que c'est fait de manière absolument pas subtile et au détriment de l'image de la femme. Et ça, c'est effectivement...
Une BD des années 60 n'est pas exactement... Bon, enfin, on peut la lire un peu différemment qu'un film sorti en 2005, produit en 2004-2005. Et enfin, peut-être, on peut parler de cet élément plus ou moins central, enfin, en tout cas de la dernière partie du film, qui est une espèce de course, je crois qu'ils appellent ça la Cannonball.
Ouais, Cannonball.
Donc l'idée étant que c'est une compétition entre le Mirage 2000, entre le Mirage 2000D, donc pour l'attaque au sol, qui est un biplace, et qui est en compétition contre le F-16 pour à destination d'un pays qui n'a d'ailleurs jamais précisé du tout, faute qu'il est dans le Golfe, mais on n'est pas bien certain. Et donc ils sont censés faire une sorte de course l'un contre l'autre, et en gros celui qui gagne la course emporte le marché probablement à la fin.
Notre appareil, un Mirage 2000D, décollerait de là. Le F-16, version APG-68 de la base américaine de Rota, ici au sud de l'Espagne. Point d'arrivée, vous par là, eux ici, pour tous les deux, 6600 km en ligne droite vers la corne de l'Afrique.
Même distance, même timing, même condition de vol. Le premier avion qui passe vertical l'objectif et envoie la photo au satellite gagne.
That's the cannonball.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce truc-là ?
Alors, aujourd'hui, ça paraît complètement non pertinent. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on sélectionne un candidat à l'export pour un avion de combat.
Vous voulez dire que ce n'est pas parce qu'on est arrivé les premiers en Grèce qu'on a réussi à leur vendre des
rafales ? Exactement. Ça n'a pas été le critère de succès. Ça a plutôt reposé sur la qualité du rafale. Et d'un autre côté, quand on discute avec les scénaristes, même si ça a été fait plus ou moins adroitement, ces derniers nous disent qu'il y avait derrière une référence historique qui, une fois encore, aujourd'hui n'a aucune pertinence, mais qui en avait au début de l'aviation. En 1909, on se souvient de la grande semaine d'aviation qui se situait sur le terrain de Bétheny, terrain qui est cher à mon cœur, puisque c'est pas très loin de Reims, base aérienne sur laquelle je suis né en tant que pilote de reconnaissance.
Alors, on ne s'en souvient pas tout à fait, donc il va falloir quand même nous préciser à quoi ça consiste.
Alors justement, cette grande semaine de l'aviation, elle consistait à rassembler les constructeurs de l'époque et d'établir différentes courses pour voir quel était le meilleur avion, quel était l'avion le plus endurant. Donc, par exemple, il y avait le Grand Prix de la Champagne, qui a été gagné d'ailleurs par Henri Farman. C'est un prix d'endurance sur 180 km. Mais on avait également une course, un peu à la Cannonball, telle que précisée dans le film. Donc c'était la coupe Gordon Bennett. Et la première a été faite en 1909, et c'est un Américain qui avait gagné, c'était Glenn Curtis, qui est arrivé avec 5 secondes d'avance sur un pilote que l'on connaît bien en France, qui est Louis Blériot. Et donc à l'époque, parce qu'à ce type d'événement, on avait même les familles royales britanniques, le président français, le ministre de la guerre, c'était un peu un moyen de faire son marché pour aller dans la perspective, pour les perspectives futures, quel type d'avion je vais pouvoir acheter pour équiper mes armées de l'air naissantes. Donc il y a cette référence historique, mais une fois encore, et je termine là-dessus, il est évident qu'aujourd'hui, les performances en vitesse sont relativement similaires d'un appareil à l'autre, dans la même classe, hein, je parle F-16, Mirage 2000, Rafale, c'est pas sur ça qu'on va discriminer un avion, on va plutôt le discriminer sur sa capacité à produire des effets, sa connectivité, son emport en armement, sa maniabilité et sa capacité à agir en réseau. Donc c'est pas du tout comme ça qu'on sélectionne un avion, évidemment.
Donc, ce sera donc la 800e incohérence du film, mais on va pas s'arrêter là-dessus, et donc, quand même, on peut le recommander chaudement, en tout cas en se bouchant les oreilles à certains moments, mais pour les yeux se régalent dans l'ensemble sur ce film. Voilà, faut un peu débrancher le cerveau de temps en temps, et il faut un peu se boucher les oreilles par séquence, mais c'est quand même de très 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 belles images, et qui, j'ai trouvé, en tout cas m'ont tout à fait sensibilisé à la poésie du Mirage et du Mirage 2000.
Et allez voir le site d'Éric Magnan, donc le directeur photo, qui publie beaucoup d'autres vidéos qui sont tout aussi sublimes les unes que les autres, et vous n'aurez pas les dialogues associés.
Très bien, donc j'aurais évidemment les références, donc Les Chevaliers du Ciel de 2005 de Gérard Pires. Merci beaucoup David Papalardo.
Merci à vous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.